Bonjour, c'est Guillaume Canet dans Popopop. Popopop, c'est parti. Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous vivons une époque troublée où la démarcation entre les genres a perdu autant en pertinence qu'en netteté. Autrefois, quand j'étais un petit garçon, et je vous arrête tout de suite, je suis toujours un garçon, et petit ça se discute, les choses étaient assez simples. En gros, les filles jouaient à la poupée et les garçons aux cow-boys. Bien sûr, il y avait des nuances, certains garçons s'intéressaient plus aux pistolets des cow-boys qu'aux cow-boys eux-mêmes, et certaines filles imaginaient des jeux moins conventionnels avec leurs poupées. Mais d'une manière générale, la ligne était claire et pas seulement pour les fans de Tintin. Et nous, les petits garçons, on adorait jouer aux cow-boys et aux indiens aussi, évidemment. Et puis on a grandi, on a troqué nos déguisements contre d'autres et au lieu de jouer, on a regardé les autres le faire à notre place, dans des films. Et ces films, c'était des westerns. Et voilà pourquoi tous les petits garçons devenus grands ont un faible pour ces films-là. Jacques Audiard a décidé de leur faire plaisir et il en a fait un, magnifique. Et comme cet homme-là est facétieux et qu'il ne fait rien comme personne et qu'il se soucie de faire plaisir aussi bien aux amateurs de cow-boys qu'à ceux et celles qui aiment les poupées, le tient pour titre Les Frères Sisters.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Au menu de Pop, 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 une masterclass avec le grand Jacques Audiard. Bonjour Jacques Audiard.
Bonjour Antoine.
Sommes ravis de vous avoir dans cette émission. Alors oui,
aussi.
Monsieur Audiard, ne vous étonnez pas de ce tumbleweed qui vient de traverser le studio. C'est juste pour vous plonger dans l'ambiance western. C'est fait. À mes côtés, une de celles qui imaginait des jeux moins conventionnels avec ses poupées, Charline Roux.
Je leur ai toutes coupé les cheveux. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Charline Roux. Jacques Audiard, pendant 4237 émissions, j'ai posé cette même question. Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses extravagantes, lénifiantes, passionnantes, alarmantes, palpitantes. Parmi mes préférées, il y a celle de Karim Leclou, un des acteurs de votre film Un prophète. Écoutez.
Je dirais que c'est la culture qu'on n'impose pas, mais qui s'impose.
Pas mal.
C'est intéressant, oui.
Et pour vous, Jacques Audiard,
je dirais que c'est ce qu'a trouvé le capital pour transformer les jeunes d'après la guerre en consommateurs. Mmh. Les fameux enfants du baby-boom sont devenus instantanément des chouettes consommateurs de micro-sillons.
Avec un peu de plaisir, quand même.
un plaisir, mais évident, évident. Mais la conso, c'est bien, ça enivre.
Bien, alors avant votre définition, on a entendu Karim Leclou donner la sienne. Et justement, Karim avait lui aussi une question pour vous. Mais je suis embêté parce que c'est une question un peu touchy, une question qui peut vous faire quitter ce studio alors que vous êtes censé rester avec nous jusqu'à 17h.
Tout peut venir de Karim.
Une question qui risque de générer une vague de mails de nos auditeurs. On y va quand même, Jacques Audiard?
Je vous en prie.
Vraiment, vous êtes prêt?
Je crois.
Ok, allons-y.
Bonjour Jacques Audiard, comment tu vas?
Putain Karim, alors là franchement tu me scies, il ne faut pas qu'on se croise.
Voilà la réponse Karim, ça vous apprendra bien. Jacques Audiard, le temps que vous repreniez vos esprits, écoutons une nouveauté venue du groupe de post-punk britannique Sleaford Mods. Le morceau s'appelle « Stick in Five and Go ». The screen gets a window and makes it bright. While I take out all the rubbish on who I don't like. There's nothing in here, I'm just ignoring my kids. Spitting at some idiot I don't know. From Leeds, he told me I was gonna get smacked. For the rest of the day, I just thought about that. Should I get in the car and drive up there? Take my chances and get his address. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa. Got a tip from a random and where I should go. It was highly unusual, but I was fuming. I couldn't sleep at night with thoughts of pulling his tail. So I bought a uniform from Royal Mail. I know it sounds weird and it's not okay, but I got a good mate at the DVLA. So I threw him some cash and I got a postcode and a door number and a road. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa.
postman. I've got a big package for you. You need to sign for it, Mr. Trees. It's massive. So can you come outside? You need to sign for it, mate. What's in it? I'm not sure. I think it's an inland address. So can you come outside?
Don't know.
You need to sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. 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 Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go.
Stick in a Five and Go, c'est un morceau qui nous vient de Nottingham, signé du groupe anglais Sleaford Mods, sur lequel Jacques Audiard a dansé comme un fou.
Oui, absolument comme un fou. Vous pouvez y repasser, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris dedans.
J'ai pas tout compris dans la boucle rythmique. Bien.
Ah, ben non, non,
plaisante, plaisante, plaisante. Alors, vous écoutez Pop
Smiley.
Pop. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un homme qui a déclaré « Je suis le gars qui cherche à savoir qui il est ». Mais on va vous le dire, nous, Jacques Audiard, avec votre pop portrait. Alors, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons un metteur en scène dont la virtuosité n'est certes plus à prouver, mais dont les préoccupations pas nécessairement réjouissantes étaient clairement annoncées dès le premier film réalisé, Regarde les hommes tombés. Enfin, pas réjouissante pour ceux qui ont chu, hein, parce que pour ceux qui, comme nous, regardent, c'est un délice. Non pas que je sois sadique, hein, mais le mot-clé, je le répète, est virtuosité, celle avec laquelle notre invité n'a eu de cesse de les regarder chuter avec plus ou moins de gravité, et non sans avoir offert à certains la possibilité d'une ascension, d'une rédemption ou d'une amputation et slash ou mutilation. Alors, parmi ceux que Jacques Audiard a, qui a fait des croche-pieds, citons Jean-Yann, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, tombé par deux fois, hein, puisqu'il a aussi été un homme très discret, Vincent Cassel dans Sur mes lèvres, Romain Duris dans De battre mon cœur s'est arrêté, titre prémonitoire puisque c'est exactement ce qui m'est arrivé quand il n'a pas eu le César, je ne l'ai toujours pas digéré, c'est mon côté Mathilde Seigné. Beau doublé pour le combo Ça monte vite et ça redescend à la même vitesse pour le duo Rai-Marestrup dans Un prophète, belle chute également pour Mathias Schoenaerts dans De rouillé d'os. Anthony San Jésus Tassan a également une belle trajectoire descendante dans Dipan, sans oublier bien sûr les merveilleux Emmanuel DeVos et Marion Cotillard, parce qu'il n'y a pas que les bonhommes à regarder tomber hein, dans la vie. Quant aux quatre merveilleux héros des Frères Sisters, laissez-moi juste conclure en disant que si Joaquin chute, proms pour le rattraper.
Voilà. Bien, vous portez volontaire.
Oui, bien sûr.
Vous laissez Charline rattraper Joaquin Phoenix, s'il chute, bien évidemment.
Oui, oui, bien sûr. Surtout qu'il prépare un film, il va faire Joker dans Batman. Et il a perdu 15 kilos, je pense, donc ça sera plus facile pour vous éventuellement de le choper.
Muscu, s'il
voilà.
Le
non, mais il est costaud, hein, ma Charline, vous savez.
Ouais,
c'est robuste, hein, c'est picard.
C'est robuste et picard.
Jacques Audiard, qu'est-ce qui se cache sous votre chapeau? Découvrons-le avec votre pop list. Hop. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Jacques Audiard, pour le livre, vous avez choisi Écoute de Boris Razon, sorti le 22 août dernier. Bien, Charline, justement, on vous écoute. De quoi s'agit-il?
Vincent Lemasson est officier de police. Il surveille l'avenue des Gobelins depuis sa camionnette banalisée. Il intercepte tous les messages échangés dans son périmètre. Je dis bien tous les messages, de l'émoji aux photos érotiques, en passant par d'obscurs messages en langage texto. Soudain, un homme attire son attention, un homme sans connexion, qui n'aimait absolument rien. Il entre dans un magasin d'appareils photo et en ressort équipé d'un lourd boîtier. Trois petits points.
Alors, avant de nous dire Pourquoi ce livre vous plaît tellement, Jacques Audiard ? Lisez-en-nous un extrait, s'il vous plaît.
Oui, je vous en sors lire l'extrait. Alors, je contextualise, comme on dit chez les fous.
Vous êtes chez les fous.
Oui, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, contextualise. Hein. Et donc, comment c'est un narcotrafiquant qui s'appelle Flaco, qui pèse à peu près un quintal, veut disparaître dans la nature, et pour disparaître dans la nature, il veut se faire transformer en femme, il veut subir une opération de chirurgie esthétique. Mmh. Mais comme il, non seulement il veut devenir femme, mais il veut devenir une petite femme. Quand on pèse un quintal, vous voyez le problème. Alors je vous en lis 20 secondes.
Allez-y.
La chirurgie de transformation était désormais bien maîtrisée. Faire d'Hernan une femme était techniquement assez simple. Un traitement hormonal lourd et quelques opérations chirurgicales viendraient assez facilement à bout du personnage le plus viril du Mexique. Non, le plus difficile était clairement de réussir la métamorphose d'un colosse en jeune femme fluette. Certes, il allait devoir maigrir, et beaucoup. Certes, il faudrait retirer de la peau pour compenser la perte de poids. Mais comment faire pour la taille des bras, des jambes, du torse? Tuschinski avait consulté nombre d'éminents spécialistes mexicains.
Pourquoi ça vous plaît tellement, ce livre ?
Non, là, je ne lis qu'un seul extrait. C'est un livre, en fait, sur la paranoïa contemporaine, les attentats, sur la violence, et à un moment donné, on ne sait plus exactement ce qui se passe, et tout, à la fin, se rejoint. C'est assez virtuose.
Ça s'appelle Écoute de Boris Razon. C'est édité chez...
Razon.
Chez Stock. Oui,
gratos. Chez Stock. Bien. Pour le film, vous choisissez en fait deux films. D'un côté, La nuit du chasseur, un film de Charles Laughton sorti en 1955 et adapté du roman de Davis Grubb, publié en 1953, un film qui a fait la fortune de nombreux tatoueurs. Et même Charline s'est fait tatouer Love et Hate sur les doigts. Bon d'accord, les doigts de pied, mais les doigts quand même. Qu'en dire d'autre, Charline ?
Que Robert Mitchum y est le révérend Powell, un homme de foi de type misogyne et tueur en série, qui voyage à travers tout le pays, qui se marie à des veuves et puis les tue, en prétextant que c'est la volonté de Dieu. De la pure science-fiction, bien sûr, puisque les gens d'église ne feraient pas de mal à une mouche.
La nuit du chasseur, bande-annonce.
Here is all the stark terror, the passion and suspense of the best-selling novel that gripped millions.
Where's the money here?
But that's why I promised John I would tell.
John doesn't matter!
The combined powers of Paul Gregory and Charles Laughton. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter.
Un film qui hante les nuits de nombreux cinéphiles avec un Mitchum absolument magistral.
Oui, qui est avec Thomas Bidguin, donc mon ami co-scénariste. C'est vraiment un film qui nous a servi de référence pour les Sister Brothers. Or, La nuit du chasseur n'est pas un western. Mmh. C'est un conte qui se situe. Enfin, c'est ces enfants qui errent pendant la Grande Dépression. Et c'est assez étonnant parce que c'est Charles Laughton le réalisateur. Charles Laughton, c'est un film unique. Il n'a fait que celui-là. Charles Laughton est C'est un gigantesque comédien. C'est un très, 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 très grand comédien de théâtre, de cinéma. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est comment quelqu'un qui est strictement comédien va faire un livre d'images, va avoir un univers aussi imagé que ça. Alors, il est épaulé pour ça par un très grand chef opérateur qui s'appelle Cortés, qui a travaillé avec Wells. Et le résultat, c'est vrai, c'est un film qui hante. Il suffit d'en voir quelques images chez Shelley Winters dans sous l'eau, le Mitchum qui arrive en chantant sur un fond de ciel. C'est vraiment des images très très marquantes.
Mais j'ai annoncé deux films, donc le second c'est Little Big Band, un film d'Arthur Penn sorti en 70, conservé à la Bibliothèque du Congrès depuis 2014.
My name is Jack Kraft. When I was 10 years old, my family was wiped out by a band of wild Indians. But the Cheyenne had no idea.
He is little in body, but his heart is big. His name shall be Little Big Man.
Impossible de faire un choix entre les deux.
Mais comment un peu paresseusement, j'ai fourni, je vous ai répondu. Enfin, j'ai pris ces deux titres-là parce que ce sont deux films qui nous ont servi à Tom et moi pendant les 20, voilà, qui nous ont bercés. Alors, Little Big Man, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Et Dustin Hoffman y est incroyable. C'est un film comment picaresque, épique. Là encore, ça procède un peu, pas du conte, mais d'une histoire qui serait racontée, puis c'est le cas d'ailleurs. Et maintenant, j'y pense de plus en plus comme, en fait, ça serait un peu l'Indien et la question juive. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant et la question juive. Ben, c'est un peu l'Indien et la question juive. C'est l'acquisition d'un patronyme. Comment on va passer de Little Big Man à Big Man? Il propose une fiction quand même. L'acteur propose une fiction colossale. C'est comment croire à Dustin Hoffman qui a 100 ans, qui a 15 ans. Ou 14 ans, c'est invraisemblable. Et c'est très très beau ce que ça dit sur l'Amérique, sur la disparition des Indiens. C'est absolument magnifique.
Et j'observe que dans les deux cas, l'acteur.
J'aurais pu dire Missouri Breaks aussi, mais je dis Little Big Man.
Vous parlez beaucoup de l'acteur.
Oui, de Dustin Hoffman. Évidemment, bien sûr. Ce sont des films qui sont vraiment vraiment portés par des acteurs au sommet de quelque chose.
Pour ce qui est de la musique, votre choix est clair, parce que votre chanson culte, c'est « I Could Have Danced All Night » des Cops and Robbers. Le groupe tire son nom d'une chanson de Bo Diddley, avec une réinterprétation très libre, une chanson issue de la comédie musicale.
Le cinéma,
toujours le cinéma. Écoutons ce que ça donne.
« I could have danced all night, I could have danced all night, and I still have begged for more. I could have spent..."
Alors, si je comprends bien, Jacques Audiard, c'est le cinéma qui vous a amené à cette chanson.
C'est My Fair Lady, oui.
Ouais.
Mais puisque tout à l'heure on parlait de pop culture, je crois que ça doit être ça, peut-être un ou deux disques des Shadows. C'est les premiers disques, les premiers micros que j'ai dû acheter quand j'avais 12 ans.
Et c'est un disque.
Ça, et puis un Hugo Frey, probablement.
Je vous remercie d'avoir choisi Cops and Robbers. Nous avons également demandé une série, et là, rien. Absolument rien, parce que vous ne regardez pas de série.
Non, je ne regarde pas de série. Oui, pourquoi j'ai pas choisi? J'ai dû vous mettre un commentaire.
Oui, vous nous avez dit « j'aime pas trop les séries » et vous vous fiez aux conseils qu'on vous donne, ce qui vous permet de faire le tri dans vos relations.
Bah oui, voilà.
Bon, bah écoutez.
C'est que je peux comme ça, si on me conseille une série et que c'est vraiment de la merde, bah, j'appelle la personne à 4h du matin, tout simplement.
Vous avez perdu beaucoup d'amis comme ça?
Oui, avec les séries, oui, pas mal, je veux dire. Ça sert, on restreint le cercle des relations.
Alors je prends un risque considérable et moi je vous recommande Fauda. C'est l'histoire d'un agent israélien qui interrompt.
Je l'ai vu.
Alors,
nous sommes plus potes.
Ça vous plaît pas tellement?
Non, c'est plaisant.
Donc,
très, très honnêtement, j'en ai vu deux épisodes, je trouve ça vraiment bien.
Ouais, regardez les deux saisons, elles sont vraiment étonnantes. Je crois que c'est sur Netflix. Un petit bout du générique, juste pour l'ambiance. Voilà, c'est l'histoire d'un agent israélien qui interrompt sa retraite pour traquer un combattant palestinien qu'il pensait avoir tué. Une traque qui va déclencher une série d'événements dramatiques. C'est diffusé sur Netflix. Voilà, c'est ma recommandation.
Ceci étant, j'imagine que vous avez quand même regardé la série The Night Of, dans laquelle jouait Riz Ahmed, qui est votre comédien des Frères Sisters.
C'est-à-dire que quand moi je suis probablement un peu saoulé par les... Vous avez parlé dîners en ville ou... On vous raconte la dernière série.
C'est le sujet.
Ça remplace toute vie sociale. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Mais j'ai vu, effectivement, j'ai découvert Riz Ahmed, qui joue dans les Sisters, dans Night Of. Et c'est vrai que Night Of, les cinq premiers épisodes sont franchement formidables.
Alors regardez.
Après, c'est un peu un prophète, je dois dire, mais.
Regardez les deux saisons de Fauda, et puis appelez-moi pour vous dire si on reste pote ou pas. Bien, je résume. Écoute, La Nuit du Chasseur, Little Big Man, I Could Have Danced All Night, et Fauda en ce qui me concerne. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
My name is Jack Crabb.
Here is all the stark terror,
could have danced,
the passion and suspense,
all night.
Père Bernan, une femme, était techniquement assez simple.
I could have danced
when I was 10 years old,
all night.
But I thought I promised John I would kill.
And I still,
time doesn't matter,
have begged
His name shall be Little Big Man.
Voilà ce qui traîne dans la tête de Jacques Audiard en ce 18 septembre
2018. C'est pas joli, joli. Hein.
C'est un peu faudra, c'est un peu chaos.
C'est un peu bizarre.
Non, ça nous plaît, nous.
D'accord.
On aime bien. Jacques Audiard, on retourne dans le saloon de Papa Pop, juste après un morceau des White Stripes, et ce morceau, c'est Jolene. White Stripes, Jolene, c'est dans Pop Pop sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Audiard, venu nous présenter son nouveau film Les Frères Sisters. Alors le point de départ de ce film date de 2012, c'était lors du festival de Toronto, vous présentiez De Rouille et d'Os, et là vous avez croisé John C. Reilly et son épouse Alison Dickey, qui vous ont proposé de lire Les Frères Sisters, le roman de Patrick DeWitt, dont il détenait les droits. Donc vous l'avez lu, et là...
C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude qu'on me propose des choses, parce que comment je suis, normalement c'est moi qui ai les idées,
sur les bouquins, fournisseur.
Voilà. Et là c'est vrai que j'ai forcément une espèce de je sais pas de suspicion. Mais j'ai lu le bouquin m'a enthousiasmé, puis c'est parti comme ça. Voilà. Et mais c'est la première fois que ça m'arrive.
Mm-hmm. C'est bon signe.
Oui. Je change.
Du coup, c'est le livre qui vous a vraiment donné envie de filmer cette histoire. Et il s'est trouvé qu'accessoirement, c'était un western, puisque j'ai lu dans quelques papiers, vous avez déclaré ne pas être un grand fan du genre, allant même jusqu'à dire que les personnages étaient souvent des cons.
C'était souvent quoi, pardon ?
Des cons, les personnages de western.
Bah, oui, ça c'est indéniable.
Hein. En quoi est-ce que ces frères sisters sont différents ?
Ils sont différents parce que je pense que d'une part, je crois que Patrick DeWitt, donc l'auteur, regarde le western, il y a une littérature western, mais regarde sans sans ironie. Il met quelque chose dessus qui peut-être qu'on pourrait appeler par exemple du gothique, de la littérature gothique, du style du genre gothique. Et c'est ce qui fait que moi, en le lisant, je vois bien, oui, il y a des chevaux, il y a des types dessus avec des chapeaux et des gros flingues, mais c'est pas, ce sont des enfants qui parcourent le paysage en poursuivant cette conversation qu'ils ont depuis l'âge de 8 ans et demi, quoi. Et c'est donc, c'est très différent. C'est cette dimension de conte, moi, qui me plaisait dans le livre de Patrick. Et le western, bah pour moi, vous savez, c'est western. En plus, faut pas. Pour nous, c'est une culture d'importation. On n'est pas ça n'est pas une imprégnation comme pour un Américain. Nous, très très honnêtement, pour moi, c'est un film d'époque. Ça n'est pas. Nous, on vient, je pense, d'autres choses. Ce qui nous a formés, ce qui nous a constitué intellectuellement, c'est probablement une partie de la littérature du 19e siècle. C'est le réalisme, des choses comme ça. Eux, ils se sont constitués comme nation dans un mythe. Avec le cinéma et le western. Et c'est ce qui est marrant, c'est que c'est contemporain quasiment. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est donc la première fois que vous partez d'un livre existant. Pour les films précédents, par exemple, Regarde les hommes tombés, vous aviez adapté un roman qui était un trio sans espoir de Terry White.
J'ai pas mal adapté le roman, effectivement. Mais même ça c'est une coïncidence, mais de Rouillé d'Os, c'était également un américano-canadien au Canada.
Oui. Un recueil de nouvelles, c'est ça. Un héros très discret, Jean-François Deniaux. Bon, à quel moment savez-vous que vous tenez quelque chose en lisant une œuvre ? À quel moment ça vous parle et vous imaginez un film à partir de ça ?
Je ne sais pas trop, Antoine. C'est bizarre.
Il n'y a pas un déclic,
Ben je crois que ça doit être... Est-ce que c'est des images ? Est-ce que c'est des condensations de situations ? Mais parce que c'est une bonne question, parce que comment quand vous dites voilà, ça va être ça, il faut savoir que quand vous dites ça va être ça pendant 3 ans. Mm-hmm. C'est vous hypothéquez votre vie pendant 3 ans là-dessus. Donc, ouais. Il faut que la chose soit quand même extrêmement aidée, beaucoup de ressorts, beaucoup de possibilités de renouvellement et que vous-même vous soyez, pour prendre les Sisters, on a réécrit même pendant le tournage, on réécrivait. Ouais. Thomas débarquait sur le tournage, on écrivait des scènes et puis on les donnait le lundi aux comédiens. Et
donc, par exemple, dans le cas des Frères Sisters, au bout de 3 ans, non seulement le plaisir ne s'était pas émoussé, mais en plus, vous avez peut-être compris à la fin pourquoi vous aviez voulu faire ce film.
Non, mais ça, c'est complètement dingo. C'est vrai que c'est fou.
Racontez-le nous.
C'est vrai que on me l'apporte, donc voilà, il y a des thèmes que je reconnais dedans, je suis pas tout à fait aveugle. Et voilà, je travaille dessus, et puis régulièrement quand même j'ai une espèce de distance, c'est pas je me dis mais qu'est-ce que je fais là, c'est plutôt qu'est-ce que je cherche là. Et du temps se passe, au montage toujours cette même sensation, et puis il s'avère que je montre mon film, des copies de montage, et puis ma belle-sœur vient, comme d'habitude. Je la consulte et puis à la fin du déjeuner, elle me dit c'est même pas une interrogation, elle me dit tu le dédies à François, donc mon frère que j'ai perdu quand j'avais 22 ans. Et voilà, le ciel m'est tombé sur la tête, je n'y avais pas pensé, mais une seconde. Quand même, ça s'appelle Sister Brothers.
Ouais, c'est complètement dingue. On est
d'accord. On dit que l'inconscient est con, je crois que c'est moi qui suis con. On va laisser.
Parfois, les deux peuvent l'être.
Attention, oui, c'est vrai que c'est assez bizarre.
Bien, maintenant, direction l'Oregon dans les années 1850, où un chercheur d'or est pourchassé par un duo d'assassins, les frères Sister. Bande annonce.
Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed?
I don't know. 6, 7.
We didn't even get his horses back.
S-I-S-T-E-R-S. Sisters. Like sisters.
We are the Sisters Brothers. You and me.
You not scared to reproduce yourself?
C'est donc un film dédié à votre frère, Jacques Audiard, vous venez de nous le rappeler, et votre frère, personnage central au passage du plus beau livre de votre père, hein, Le jour, la nuit et toutes les autres nuits, un livre qui, moi, m'a marqué au fer rouge. C'est le thème du western qui vous a... Vous avez en partie répondu à la question que je vais vous poser, mais je vous la pose quand même. Est-ce que c'est le thème du western qui vous a replongé dans vos souvenirs d'enfance, ou bien est-ce que vous aviez envie depuis longtemps d'évoquer une histoire de fraternité ?
Quand on est... Ce qui est curieux, c'est qu'au bout d'un chemin comme ça, aussi dissimulé, comme ça, avec, à travers des genres, alors on dit western, moi je dis conte, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça s'aveugler autant, c'est quand même particulier. Quoi. Mm-hmm. Je sais pas, alors je trouve que c'est ça, finalement, c'est assez intéressant quand on est cinéaste, qu'on va fabriquer des images, de se mettre dans le genre. Je crois que c'est une façon, j'en ai encore la preuve là, de vraiment d'échapper à l'autofiction, qui serait tout à coup une parole très très directe, mais d'avancer comme une espèce de cheval de Troie, comme ça, et quand même d'être dans un intime autre, voilà, de se dégager, de se regarder, voilà, je trouve ça finalement très intéressant.
Je reviens à une considération plus légère. Quand vous étiez enfant, un petit garçon, le petit garçon dont je parlais en ouverture de cette émission, est-ce que vous étiez plutôt lui? Ou bien lui?
Une belle pièce d'or de $50 toute neuve.
C'est-à-dire plus Rintintin que John Wayne? Ou l'inverse?
Alors, je pense que moi, j'étais plutôt Rintintin. Et John Wayne, j'ai une dent contre lui.
Ça, oui, John Wayne, oui. Vous avez été très déçu par la VF aussi de John Wayne, non?
Non, c'est quand même, pour moi, il y a une espèce de chose qui est, je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, que John Wayne est français. Mmh. Et je suis très surpris quand je découvre qu'il ne l'est pas. En fait, et ce mec me déçoit, quoi. Il ne cesse de me décevoir.
De ne pas avoir été français?
Bah oui, mais il parlait français. Pour moi, je le comprenais. Voilà. Mais après, bon, il se met à parler américain. Je comprends rien du tout.
Et vous avez même dit que John Wayne vous a jamais appris à parler aux filles.
Alors que vous avez appris à parler aux filles, vous, John Wayne?
Oui, mais ça marchait pas, quoi.
Mais ça marchait pas, voilà. Tandis que moi, je sais que vous regardez un peu, quoi, quand vous êtes adolescent, vous regardez Trintignant, vous regardez Samy Fray, c'est quand même, voilà, il va vous donner 2-3 recettes pour emballer.
Non, je plaisante. Non, John Wayne nous a fait perdre beaucoup de temps, en fait.
Oui, absolument. Voilà, c'est ça, c'est ce que je lui reproche.
Avec cette dégaine.
J'aurais bien aimé voir ça. Revenons aux Frères Sisters. Les Frères Sisters, ce sont donc Charlie, le tempétueux, nerf fragile, un peu violent, et là, il est né sage, mais un peu désarmé, un peu désarmant, un peu poissard aussi, pour lequel vous avez le plus de tendresse.
Je les aime tous les deux, comme des frères. Mais c'est pas comment le. En fait, c'est un stéréotype de la littérature, hein, le grand, le maigre, c'est des souris et des hommes. On peut avoir ça.
Laurel et Hardy, John C. Reilly vient de tourner.
Il a fait Hardy là. Mais l'idée, c'était de que ce personnage de comment. Joaquin arrive ici, c'est une espèce de diable incroyable.
Joaquin Phoenix.
Très, une séduction très immédiate, avec une voix vraiment, vraiment.
Dites pas ça à Charline.
Excitant. Et l'idée, c'était de faire comment l'autre frère, qui est balourd, qui est un peu plouc, tout ça, d'en faire le plus intelligent, le plus tourné vers la modernité, finalement, de le faire accéder à un statut de héros séduisant. Et voilà, c'était ça.
On va continuer cette conversation autour des Frères Sisters dans quelques instants, Jacques Audiard. Pour l'instant, il faut qu'on fasse nos pop news. Est-ce que vous savez faire ça, accessoirement?
J'ai peur de laisser mes dents et ma joue.
Bah vous non, voyez comme c'est minable? Non, il était très beau et rien n'est sorti. Non, je vous en félicite. C'est le moment des pop news.
Et c'est cette nuit que s'est déroulée la 70e cérémonie des Emmy Awards qui récompense aux États-Unis le meilleur de la télé. Voici donc la liste des gagnants. Meilleure série dramatique, je vous le fais deviner, en deux briques, Dragon, Inceste.
Game of Thrones.
Oui, gagné, tout à fait. Meilleure actrice dans une série dramatique, Claire Foy, pour son rôle de reine dans The Crown. Meilleur acteur, même catégorie, pour Matthew Rhys pour The Americans. Qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? Écoutez, meilleur acteur dans un second rôle, Peter Dinklage, le Tyrion de Game of Thrones. Actrice dans un second rôle, Thandie Newton pour Westworld. Meilleure série comique pour Mrs. Maisel, femme fabuleuse. Meilleure actrice, pour la comédienne qui joue dans cette série. Meilleur acteur pour Bill Hader dans Barry. Et meilleur second rôle pour Henry Winkler, vous vous souvenez?
Oui, Fonzie dans Happy Days. Il y a beaucoup de catégories.
Oui, il y en a beaucoup, mais je peux ne pas toutes les faire. Hein, dans Barry, sinon, si vous voulez, je peux juste vous dire que le scandale de la soirée est l'absence absolue de Kyle MacLachlan pour Twin Peaks.
Voilà. Très bien. émis toujours, mais parlons du show et de musique aussi. Le numéro d'ouverture était chanté par une chanson sur la diversité, sobrement intitulée « We Solved It », pour gentiment se moquer des problèmes de représentation des minorités dans ces cérémonies de récompense. Sur scène, pour chanter et rigoler, Kate McKinnon et Kenan Thompson du Saturday Night Live, les comédiens Kristen Bell, Sterling K. Brown, Andy Samberg, le chanteur Un, Dos, Tres, Ricky Martin, l'immense RuPaul et le chanteur-acteur à voix de velours John Legend.
Of TV, we solved it. We solved it. We solved it.
Voilà, on l'a résolu. Un numéro à retrouver dans son intégralité sur la chaîne YouTube Television Academy.
Et on en parlait il y a un instant, une première bande-annonce pour le très, très attendu, en tout cas ici, Stan et Holly, biopic consacré à Laurel et Hardy, enfin biopic partiel, puisque le film s'intéresse à la tournée de 1953, tournée durant laquelle le duo se rend compte de sa chute de popularité et que des problèmes d'ordre personnel commencent aussi à un peu venir perturber le duo, avec dans le rôle de Stan Laurel le comédien Steve Coogan et dans celui d'Oliver Hardy, un certain John C. Reilly.
Pretty empty last night.
I guess people just don't want to see Laurel and Hardy anymore.
Has he been pushing you a little too hard, babe?
You know, Stan.
You could have said goodbye, Oliver, a long time ago.
We had a good thing going, but you had this big chip on your shoulder because I did a picture with someone else.
I couldn't sleep for days when they told me what you did. You're just a lazy ass. Got lucky because you met me.
Lucky to spend my life with a man who hides behind his typewriter?
You betrayed me. Betrayed our friendship.
Stan et Holly de John S. Baird sortira le 13 mars sur les écrans.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. Et oui, Jacques Audiard, j'ai toujours rêvé de faire des voix de bande-annonce américaine. Peut-être si votre film sort aux États-Unis, aurais-je cette joie?
Je pense pas, non.
Jacques Audiard, on le sait, vous écrivez des scénarios, vous réalisez des films. Vous avez aussi réalisé des clips, je pense notamment à La Nuit Je Mens d'Alain Bachung, qu'on écoute tout de suite pour le plaisir.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. existe encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens.
La nuit, je mens, c'est un morceau signé Alain Bachung, 1998, avec un clip dirigé par Jacques Audiard, notre invité d'aujourd'hui. Un clip qui a été primé meilleur clip de l'année aux Victoires de la Musique en 99. Ça vous fait quoi de le réentendre aujourd'hui?
Moi, c'est ce qu'on disait un petit peu aux rontaines. C'est vrai que c'est quelqu'un qui manque, Alain. Moi, ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'avant, j'écoutais vraiment presque tous les jours. J'ai comme ça des espèces de références. On va dire, il y avait Alain et Dylan. Ouais, mm-hmm. C'était... j'ai peur pour Dylan, à tout cas.
Et pour lui porter l'œil.
Oui, j'ai peur de porter le caramel, mais non. Et donc c'est vrai, Alain me manque beaucoup. C'est pas seulement un chanteur, c'est rare de se dire, tiens, on a croisé un poète. C'est assez rare.
Bien, Jacques Audiard, revenons à votre film Les Frères Sisters, qui va sortir mercredi sur les écrans. C'est votre premier film intégralement tourné en langue anglaise, un western tourné entre l'Espagne et la Roumanie avec des acteurs américains, comme si vous redoutiez de sombrer dans une forme de fétichisme visuel en allant au plus simple, c'est-à-dire tourner dans des décors américains.
Oui, la question qui se posait, oui c'est ça, mais moi je suis allé les voir, les décors, ils existent, ils sont là, et on les a vus 50 000 fois à travers même des choses récentes, Deadwood, Palooza, et que je crois que, mais ça m'était arrivé déjà sur Un Prophète, c'est est-ce qu'on documente du réel, voilà, ou est-ce qu'on fabrique un outil de cinéma? On va fabriquer un outil de cinéma, c'est beaucoup plus simple, et puis voilà. Et puis je sais pas, c'est vrai que... Je sais pas, on m'a posé la question l'autre jour, et les paysages, on les voit pas beaucoup. Oui, je dis, oui, c'est vrai, je suis pas jardinier. Ouais, c'est ça le truc.
Pas paysagiste.
Moi, je suis pas paysagiste, pas jardinier. Non, puis quand même, les acteurs, c'est ça qui est important.
Ethan Coen, moitié des frères du même nom, encore des frères, réalisateur de True Grit, vous avez dit que dans les westerns, le plus pénible, c'était de tourner avec des chevaux. C'est une info que vous avez pu amèrement vérifier, ou c'est une intox?
Surtout, il m'a dit ça, c'était très drôle. Parce que c'est pas, là, c'est un peu objectif, un peu froid, mais c'était vraiment une chose. Moi, j'étais à Los Angeles, comme ça. Je dîne avec lui. Et puis, c'est vrai, il venait de faire un western. Donc, j'ai dit, Ethan, qu'est-ce qu'il y a de plus dur sur un western? Là, il y a un silence qui me semble être 10 minutes. Et puis, il y a une espèce de regard ardent, comme ça, comme vraiment un mec traumatisé. Et puis, une voix biblique qui me dit, méfie-toi des chevaux. Je me souviens, une boîte d'enfant, je dis, merci.
Vous l'avez vérifié, non?
Non, je sais pas ce qu'il a avec les chevaux. Non, enfin, si vous faites un film d'époque, tout va être lourd. Voyez, il faut tout amener. Donc voilà, ça c'est lourd. Les chevaux, entre autres.
Est-ce que s'attaquer au genre western, c'est plus impressionnant que, je sais pas, le polar, par exemple? Est-ce qu'on y réfléchit à deux fois
je reviens un peu obstinément. Je suis désolé. C'est pas la chose difficile, c'est de faire un film d'époque. Parce que c'est très simple, voilà, il va falloir penser costume, il va falloir penser accessoires, il va falloir penser décor, et que tout ça... Et puis, comment... Et après, quand vous tournez en décor naturel, dans le nord de l'Espagne, de nuit, il va falloir amener... Vraiment, c'est le diable et son train, quoi. Il faut tout éclairer, c'est une chose lourde.
Mais je veux dire que c'est un genre plus codifié que d'autres.
Mais moi, Oui, bien sûr. Mais ça, est-ce qu'il est codifié dans l'esprit du spectateur ou dans l'esprit de l'autre, du réalisateur? Pour moi, il n'est pas codifié. Comment ils vont se tirer dessus? C'est plutôt non. Voilà. C'est plutôt quelle imagerie on va mettre dessus et très 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 vite. Enfin, au bout d'un moment, j'ai compris que ça serait une imagerie de conte. Vous voyez, par exemple, je crois que les premières images du film,
le règlement,
enfin, voilà, ouais. De loin, de nuit, juste des flammes. Voilà, ça, d'une certaine façon, ça fixe un code. Voilà, ça fixe un code qui est une imagerie.
Il y a aussi quelque chose d'extrêmement contemporain dans les Frères Sisters, que ce soit dans les préoccupations des personnages ou dans certains aspects de l'intrigue, qui résonnent parfois avec des travers très très actuels de l'humanité. Est-ce que vous vouliez qu'ils racontent aussi quelque chose d'aujourd'hui, même si c'est effectivement un film d'époque?
Alors, il y a deux niveaux. Ce qui était dans le roman, est vraiment un roman contemporain, dans son esprit, dans son humour. Et après, nous, c'est vrai qu'en faisant... Il y avait un défaut, pas dans le roman, mais si on imaginait ça adapté, il y avait deux personnages manquaient. Ils n'étaient pas assez développés. Donc il fallait les développer. Et très naturellement, avec Tom, on est arrivé à cette idée qu'il fallait qu'à un moment donné, l'or soit signifié autrement. Et donc c'est effectivement une utopie, c'est un phalanstère, c'est ça. Et que les deux personnages, du coup, se sont mis à exister très fortement et à devenir presque à égalité avec les autres.
Jacques Audiard, on sait votre passion pour les acteurs. C'est la première fois que vous travaillez avec des acteurs américains. Est-ce que vous avez pu noter des différences notables, justement, des acteurs
francophones? Moi, j'avais pas très envie de tourner aux États-Unis, mais c'est vrai que j'avais envie depuis un moment. C'est ça que ça fait envie. Voilà. Ils font envie. Là, on pourrait passer des heures à dire pourquoi ils nous font envie. C'est parce que il y a une espèce de présence, il y a des voix, des corps. Voilà. Mais alors après, c'est un travail. Comment ils ont véritablement une science du c'est spécifique du métier d'acteur de cinéma. Voilà. Ils se consacrent à ça. Ils existent comme ça.
Et avec une autre particularité, c'est que nous, en France, on n'a pas d'équivalent d'un John C. Reilly, c'est-à-dire un comédien à qui on propose des grosses, grosses comédies comme Step Brother, autant que des rôles comme dans Carnage ou dans Gangs of New York. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Est-ce que c'est justement l'aspect comique, parce qu'on en joue aussi un peu, ou l'aspect sombre?
Il faut se remettre dans l'ordre des choses. John C. vient me voir pour un rôle, il veut jouer Eli dans cette chose-là. Il faut savoir une chose, c'est que... les acteurs américains sont très cloisonnés dans l'industrie américaine, et que à un moment donné, John C. par exemple, il va soit des films comiques ou des choses comme ça, hein, qui seront peut-être un peu parallèles, il se sent à l'étroit là-dedans, et que il ne peut pas attendre de l'industrie qu'un réalisateur américain le fasse sortir de ça. Donc il vient chercher un Européen, il vient me chercher, et donc moi je lui sers à ça, et j'en suis très très heureux. C'est... Vous savez comment on a tendance à se diminuer, mais ils ont même Guilénaud, ils ont un désir de sortir régulièrement de la machine à broyer les petites filles. C'est énorme, vraiment énorme.
Quant à Joaquin Phoenix, il vous a même dit Jacques, je ne suis pas un acteur professionnel. Alors, il l'a peut-être pas dit comme ça, mais.
Ben oui, mais il faut décrypter. Il veut dire une chose en disant ça, c'est qu'il ne fera pas deux fois la même chose. Ouais. C'est simple, voilà. Ouais. Une fois qu'on a compris ça, et puis après, Joaquin, il a cette chose très très particulière. C'est un esprit de contradiction. Quand vous lui dites, quand vous lui donnez une indication, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Il faut tout traduire à l'envers. Si vous dites, alors tu vas à droite, tu te caches derrière l'arbre, tu fais un truc. Donc il va aller à gauche, il va se mettre sur le rocher. Voilà. Donc il faut vraiment que vous ayez un champ visuel très très réglé. Il faut lui dire ça, et puis il va faire exact. Il va se mettre là comme ça, et puis il va attendre.
Ne jamais faire deux fois la même chose. C'est un peu ce qu'on essaye de faire.
Je trouve ça, moi, les acteurs, je comprends tout.
Jour après jour, à la radio. Jacques Audiard, il est très précisément 16h53 et des brouettes. L'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. J'y vais. Je vous l'attrape. Mais où suis-je? On dirait qu'on est dans un saloon. Vide. Oh là là, moi j'aime pas trop quand c'est vide un saloon. cache des munitions dans mon pistolet. Oui, ça va, mon colt est chargé. Voilà qui me rassure. Bien, allons voir ce qui se passe dehors. Ça semble bien calme. Henri ? Henri, c'est mon cochon. Henri ? Mais je te vois là, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, 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 calme-toi, Henri, ne me regarde pas comme ça avec ton regard noir, hein. J'aime pas ça du tout. Et c'est quoi ce délire ? Henri, baisse ton arme. Quoi ? Bon, attends. Alors, petit 1, c'est pas moi qui ai rapporté l'andouille au bureau, et petit 2, il y a plein de véganes qui nous écoutent. Alors, me pousse pas à bout, Henri, hein ? Et moi aussi, je suis armé. Henri ? Henri ? Henri ? Henri, baisse ! Oh ! Relève-toi, c'est juste de la radio. Oh putain, je l'ai eu en plein dans le coin.
Rolling, 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 though the streams are swollen, keep them doggies rolling, roar hard. For rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide,
cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out,
ride 'em in, disapproving. Keep them doggies moving rawhide. Don't try to understand them, just rope, crow and brand them. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide. Cut 'em out!
Ride 'em in!
Ride 'em in!
Cut 'em out!
Cut 'em out!
Ride 'em in rawhide!
Les Blues Brothers Stem from Rawhide dans Pop 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 sur France Inter. Jacques Audiard. Jacques Audiard, nous allons nous quitter ici, mais il y a toujours une question rituelle à la fin de cette émission. J'ai ma cave hein, dans l'émission et je demande à tous mes invités s'ils sont d'accord pour laisser un objet ou une pensée ou quelque chose, ou n'importe quoi. Votre chapeau peut-être. Est-ce que vous seriez prêt à laisser un souvenir?
Je laisse ma casquette.
Vous me laissez votre casquette?
Mes lunettes, sinon je vais me prendre la porte en sortant.
Je prends juste la casquette de Jacques Audiard est désormais dans la cave de Pop Pop Pop. Merci Jacques d'être venu nous parler de votre nouveau film Les Frères Sisters. Ça sort ce mercredi. Et comment dire, c'est plus que chaudement recommandé.
C'est admirable.
Ça sent bien brûlant. Voilà. Recommandé par Pop Pop Pop. Merci Jacques.
Encore Pop Pop Pop.
Demain dans Pop Pop Pop, encore lui.
Hello, it's Paul Smith.
Eh oui, Paul Smith revient pour la quatrième fois. C'est une première, enfin une quatrième. Enfin bon, bref. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos cow-boy sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Pierre Faucillon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Oh, mais voici une co-girl qui vient de nous rejoindre, Charlene Vonnenecker.
Bonjour Antoine de Coon.
Bonjour, que va-t-il se passer dans Par Jupiter?
Je reçois quelqu'un qui est en train de parler là en ce moment sur RTL, c'est la magie de la radio.
Mais comment
c'est
possible?
C'est Laurent Ruquier.
Mais comment ça? Vous allez faire de la pub à Ruquier notre concurrent?
Ça veut dire que lui, il est enregistré.
Ah, oh.
Nous, on est en direct. Il est 18h58 sur France Inter.
Bon, ça sera juste après les infos.